Le roman d'un homme sage, chapitre 13. La vie à deux. Elle repose à côté de mon père, dans ce coin de terre donné où elle renouvelait pieusement les arbustes et les fleurs. C'est Barbe qui lui a rendu les derniers devoirs, après l'avoir soignée au péril de sa vie. Aussi longtemps que je fus seul en cause, ce petit être héroïque subit la loi des convenances en se tenant clos et coi. La future de M. Bonnard avait-elle le droit de s'asseoir en garde-malade au chevet de Pierre Dumont? Jamais. À peine eut-on permis cet acte de généreuse folie à Caroline Baron, ma fiancée, qui, d'ailleurs, ne s'en avisa point. Elle était bonne, et elle avait fait ses preuves de générosité, mais la prudence la plus bourgeoise réglait tous les mouvements de son cœur. « Si M. Pierre était mon mari, disait-elle, je sais quels seraient mes devoirs, mais il ne m'est encore rien. Nous n'avons pas mis en commun les peines et les plaisirs de la vie, comme il est écrit dans la loi. » Les parents de la belle blonde étaient émerveillés de sa philosophie. Madame Baron expliquait que l'union projetée entre nous était de pure convenance et ne comportait pas les coups de tête, comme un mariage de roman. L'estimable marchand de bois ajoutait « Je n'ai qu'une parole en affaire. Ma fille est promise à Dumont, je ne m'en dédie pas. Mais à Dumont bien portant, solide, capable de gagner très largement sa vie. Qu'il guérisse et je suis lié. En attendant, restons comme nous sommes. De deux choses l'une, il guérira et il aura ma fille, ou il mourra et nous saurons nous retourner. Caroline est en âge de s'établir. J'ai vendu des valeurs, déposé la dot chez mon notaire. Les épouseurs ne manqueront jamais. Je ne veux pas avoir sur les bras pendant 2 ou 3 ans une veuve d'autant plus triste, plus nerveuse et plus embarrassante qu'elle n'aura pas été mariée. » Ces raisons paraissaient excellentes à la plupart des bourgeois de Courcy, mais surtout au jeune notaire, maître Picheneau, qui avait la dot entre les mains et qui l'eût conservée avec plaisir, ne fût-ce que pour payer son étude. Les affaires en étaient là quand ma pauvre mère, épuisée par les veilles, les fatigues et les angoisses, reçut le coup mortel. Le bruit s'en répandit aussitôt dans la petite ville. Le docteur Casal avoua que ce nouveau cas de diphtérie présentait de tels caractères qu'il n'espérait pas le guérir. Barbe n'hésita point. Elle ne consulta ni ses parents ni personne. Elle mit quelques hardes en paquet, escalada la ville haute et fit irruption dans la chambre où ma mère râlait déjà. Ni Catherine ni le docteur n'eurent assez de force pour l'arracher à ce qu'elle regardait comme un devoir sacré. Le docteur, qui s'était chargé d'avertir la famille, fut reçu comme un animal malade de la peste. Madame Bonafigue, debout devant sa maison pour en défendre la porte, avait les deux poings sur les hanches, et le vieil emballeur faisait vibrer dans l'air 1000 malédictions ardentes et colorées. Quant à M. Bonnard, le fiancé, il annonça d'abord qu'il viendrait arracher sa future à cette atmosphère de mort. Mais lorsqu'il sut que ma mère avait succombé en 48 heures, il se calma. « Un jeune homme dans ma position, disait-il, n'a pas le droit de jouer sa vie à pile ou face. Mon oncle est sans enfant, je suis son unique héritier. Je dois me conserver loyalement à sa fortune. » Les jeunes ouvriers et la plupart des employés de la fabrique glosèrent amèrement sur cet exposé de principe. Mais 5 ou 6 fils de famille jugèrent que Bonnard se défilait en garçon d'esprit. Il paraît que ma pauvre mère fut enterrée presque en fraude, au petit jour, par une 20aine de parents et d'amis. Barbe l'avait mise au cercueil avec l'aide de Catherine et de maman La France, qui voulut absolument me garder ce matin-là, répondant à toutes les remontrances. « Pour le peu de vie que j'expose, ce n'est pas la peine d'en parler. » Le deuil fut conduit par l'oncle Joseph et par mes 2 cousins, Charles et Victor. On remarqua la présence de M. Simoneau dans le modeste cortège. M. Bonafigue n'y vint pas. Le bonhomme disait « Je me réserve pour enterrer cet animal. » Je n'ai connu tous ces détails qu'après un an ou deux, et la petite Barbe a attendu bien plus longtemps pour me conter que la mourante, dans cet instant de lucidité qui précède souvent l'agonie, lui avait murmuré ces mots « Aime-le bien, ma fille !» La recommandation était peut-être superflue. Je crois pourtant qu'elle ne fut pas étrangère à l'héroïque résolution de mon amie. Barbe estima qu'après avoir quitté la maison paternelle, essuyé les malédictions du vieux Marseillais et planté là M. Bonnard, il ne lui restait plus qu'à persévérer dans son œuvre et à soigner le fils comme elle avait soigné la mère. L'opinion des petites villes est souvent injuste et quelquefois cruelle, mais elle n'est jamais perverse, et tôt ou tard, elle s'incline devant les braves et les bons. « Si Pierre meurt, pensait la courageuse fille, je ne lui survivrai guère, et alors que m'importe le qu'en dira-t-on ? Si je le sauve, il a trop bon cœur pour me sacrifier à cette grande égoïste de Caroline. Il m'appartient. Si cependant, sauvé par moi, il s'avisait d'en aimer une autre, eh bien tant pis, j'aurais fait mon devoir, payé la dette de ma famille, mérité l'estime des honnêtes gens. Le bonheur n'est pas le principal, c'est un accessoire. Les trois quarts du genre humain ne le connaissent que de nom, et ils s'en passent. « Fais ce que doit », comme disait papa la France dans ses préceptes au Dumont. « Je suis une Dumont par le cœur, et je reste ici, quoi qu'on dit. » Quand elle prit ce grand parti, elle était fermement résolue à s'envoler chez ses parents aussitôt que je serais hors de danger. Mais ma convalescence fut longue, comme toutes les convalescences d'hiver. Jusqu'au premier jour de mars, je menais une vie précaire et chancelante. Il fallut me soigner comme un vieillard ou comme un enfant. C'est au milieu de cette période de langueur que, par un clair matin de janvier, tandis qu'elle me faisait la lecture, je me levai sur les coussins qu'elle avait entassés autour de moi et je lui dis à brûle-pourpoint « Barbe, tu m'aimes donc ?»« Moi ?» répondit-elle en riant de son bon rire ingénu. « Je n'ai fait que cela toute ma vie. » « Oui, mais est-ce que tu m'aimes d'amour ?»« C'est le mot, provisoirement, jusqu'à ce qu'on en invente un plus fort. Je t'aime est un peu froid. Je t'adore est un peu banal. L'Académie va peut-être grogner, mais tant pis, mon cher Pierrot, je t'amoure. Et toi ? Dis ? » Je ne sais comment te répondre, car il n'y a pas longtemps que je commence à voir clair en moi-même. Mais quand je fais mon examen de conscience, il me semble décidément que depuis une dizaine d'années, mon cœur est partagé entre ma mère et toi. Vous m'avez inspiré ensemble, ou tour à tour, mes meilleures pensées et mes résolutions les plus droites. Mon père t'a sauvé sans te connaître, ma mère t'a adopté dès qu'elle t'a connu, mes grands-parents te plaçaient à 100 piques au-dessus des autres filles de Courcy. Mes vieux amis, les Lutzelmann, M. Dussault, Basset, chaque fois qu'ils faisaient ton éloge, me regardaient d'un air qui voulait dire « Pierre Dumont, tu n'es qu'un sot !» Oui, j'étais un grand sot, comme tous les vaniteux. Je ne te trouvais pas assez jolie, parce que le caractère de la beauté n'était pas à la mode, parce que tu ne ressemblais pas aux poupées du Follet, de la Sylphide et des autres journaux coloriés. La première fois que mes yeux t'ont rendu justice, au retour de mon grand voyage, c'est encore la vanité, sous sa forme la plus ingrate et la plus odieuse, qui s'est interposée entre nous. J'ai été jaloux des nigauds qui te faisaient la cour, et j'ai perdu la tête à l'idée que tu pouvais les préférer à moi. Et sans comprendre, sans deviner, sans chercher le secret de cette coquetterie innocente qui cachait mal un sentiment profond, j'ai couru au mariage comme un désespéré va se jeter à la rivière. Je sais bien, mon ami, ces deux yeux que papa la France appelait des pruneaux ont toujours été clairvoyants. Quand tu faisais tes frasques à Courcy avec ces vieux vauriens de Badouillard, j'étais vaguement ennuyée, mais non pas inquiète. lorsqu'un voyage tu t'amourachais de Gertrude, de Berthe ou d'Angèle, et que tu m'adressais tes confidences par la poste, je n'arrosais pas ton papier de mes larmes. À quoi bon? J'étais sûre de toi. Ah, par exemple, il y a eu un rude moment après tes fiançailles. Un mariage décidé, conclu, affiché devant la mairie, c'était, tu l'avoueras, de quoi troubler une cervelle plus forte que la mienne. J'ai donc perdu la tête, et mes parents ont un peu abusé de mon égarement pour m'arracher un « oui » presque fatal. Mais, crois-moi si tu veux, même ce mot lâché, je ne perdis pas l'espérance. Sur quoi comptais-tu donc? Et que sais-je? Sur l'imprévu, sur l'impossible, sur la fin du monde? Tout me semblait plus vraisemblable qu'un abîme creusé par nous deux entre nous. Et je ne me trompais pas, car nous voilà rejoints par un détour auquel personne n'avait songé. Il n'y a plus d'obstacle entre nous. Monsieur Bonnard s'est retiré à Villevieille, très vexé, mais majestueux, répétant à qui veut l'entendre qu'un jeune homme dans sa position n'épouse pas la garde-malade de Monsieur Pierre Dumont. Quant à la belle Caroline, elle a profité d'un beau jour où le bruit de ta mort courait en ville pour agréer les assiduités du notaire. Elle reçoit son bouquet tous les matins et sa visite tous les soirs. Grand bien lui fasse! Mais tes parents me pardonneront-ils ta généreuse équipée? Il faudra bien qu'ils te pardonnent, puisqu'ils n'ont pas d'autre gendre à choisir. Papa n'est plus jeune, il est fatigué, et il a des jours de nostalgie. Le soleil de la Touraine est trop tiède à son gré. Il rêve de se griller l'épiderme au grand feu de Provence. Nous possédons là-bas, vers les Martigues, un simple cabanon dont il a fait une bastide, puis une campagne entourée de vignes, de figuiers et d'oliviers, avec la pinède de rigueur. Toutes les économies de la famille y ont passé. Mais par compensation, un vieux couple de bonnes gens qui ne sont ni sots ni manchots y peut vivre à l'aise. Dès qu'ils nous auront mariés, ils s'en iront planter leurs choux ou leurs pastèques. Je crois bien qu'ils regrettent au fond du cœur de ne pas me laisser riche en bien-nés et acquis, et qu'il préférait le capital de M. Bonnard à toutes tes espérances. Mais ils se consoleront bientôt en pensant que je suis la plus heureuse des femmes. Ainsi soit-il. Et quand m'épouses-tu? Quand je voudrais, grand enfant bête, mais pas aussitôt que tu crois. J'entends et je prétends que mon mari me fasse honneur aux yeux de toute la ville, et il ne me plairait nullement de te porter à la mairie comme une poupée de chiffon. Tu es guéri. Le docteur Casal m'a juré qu'il n'y aurait pas de rechute. C'est avec une joie quasi maternelle que je contemple sur l'oreiller ta bonne tête de chien reconnaissant. Mais il faudra des mois de bouillon, d'œufs à la coque et de côtelettes saignantes pour te remplumer. Notre sort est entre tes mains. Bois, mange, dors, marche quand tu le pourras. Répare. Tu ne veux pas que l'on m'accuse d'avoir détourné un majeur, enlevé un faible et capté un paralytique. Redeviens donc le beau, solide et vaillant gars que tu étais chez Caroline Baron à ta dernière visite, afin que la pécore éclate de dépit dans sa peau neuve de notaresse. C'est bien entendu. Si tu veux. Eh bien, puisque nous entrons aujourd'hui dans une vie nouvelle, puisque tu n'es plus mon malade, mon patient, mon grand baby plaintif, mais mon prétendant déclaré, mon futur et mon amoureux, je me sauve. Chut, ne crie pas, calme-toi. Tâche de comprendre que désormais ma place n'est plus ici. Je vais tout de ce pas réintégrer le domicile paternel. Dût-on m'y étriller un peu dans l'allégresse du premier moment. Tu ne me reverras qu'à la fabrique, bâtiment B, deuxième étage, sous les regards farouches, mais pas féroces, de mes parents. Catherine m'apportera mes paquets. Prête-moi ce museau pâle que je l'embrasse sur les deux joues. À ton tour. C'est assez, le monde a l'œil sur nous. À bientôt, mon grand bonhomme aimé. À toujours. Lorsqu'elle m'eut abandonnée, je me sentis horriblement seule. et il ne resta plus qu'une idée dans mon cerveau à moitié vide. La revoir, me rapprocher d'elle, rentrer n'importe comment, par la porte ou par la fenêtre, dans cette ruche laborieuse où elle m'avait donné rendez-vous. J'écrivis de ma main tremblante une lettre à M. Simoneau. Je lui dis que j'étais assez rétabli pour reprendre mes occupations, mais trop délicat pour aller et venir deux fois par jour entre l'usine et la ville haute. Tout s'arrangerait aisément s'il voulait bien me prêter ou me louer deux chambres, pour Catherine et pour moi, à proximité du bureau. D'ailleurs, il me tardait de quitter la maison où ma mère était morte et où personne n'osait venir me voir, tant on craignait encore d'y respirer un air fatal. Le patron m'envoya chercher le jour même, dans sa vieille voiture à deux chevaux, qui fit événement dans notre rue escarpée. J'y trouvai une boule d'eau chaude et des couvertures à foison. Le cocher m'annonça qu'il avait ordre de revenir au bout d'une heure avec un fourgon pour enlever les meubles auxquels j'étais particulièrement attachée. Ma vieille servante prit soin de m'empaqueter comme un enfant qu'on envoie en nourrice et elle me suivit à pied. Tout doucement, au petit pas, car on avait enrayé la voiture. Les grands « mais quel bourgeois » de M. Simoneau me traînèrent jusqu'à sa porte, sur le pavé glissant des rues, et les colis fichés gelés dans la cour. L'homme froid, qui avait fait prendre de mes nouvelles deux fois par jour, mais qui n'était jamais venu me voir, descendit au-devant de moi jusqu'au bas du perron, et pour la première fois de sa vie, il me reçut à bras ouverts. Je l'embrassai sur les deux joues, et je me laissai conduire à son cabinet, où il avait fait préparer une légère collation de gâteaux secs et de vieux vins de Bordeaux. « Mon cher enfant, » me dit-il, après m'avoir installé dans son propre fauteuil, « cette maison désormais sera la vôtre. Vous y êtes chez vous, un peu par droit de naissance et beaucoup par droit de conquête. Tout le monde vous aime ici, depuis le maître jusqu'au plus humble de nos manœuvres et au plus jeune de nos apprentis. Toute la population de la fabrique serait allée vous saluer à la grille, si je n'étais intervenu pour vous épargner une émotion dangereuse. Vous retrouverez tôt ou tard l'expression des bons sentiments que vous avez inspirés à tout ce monde de pauvres gens. Si votre cœur est un peu frileux, on le tiendra au chaud, et ce sera justice. Quant à votre bien-être matériel, c'est moi qui m'en charge. Ma table sera la vôtre, et j'ai fait préparer pour vous l'ancien appartement de ma fille. La chambre est peut-être un peu blanche pour un garçon, mais vous l'arrangerez à votre guise, et Catherine, qui devient aussi ma locataire, vous aidera. » J'étais profondément ému de son accueil, d'autant plus que le cher homme ne m'avait pas gâté dans ma première jeunesse. J'acceptai donc cordialement ce qu'il m'offrait, mais en l'avertissant que je n'abuserais pas de son hospitalité et que je comptais m'émanciper à bref délai par le mariage. Il accueillit cette nouvelle avec beaucoup d'étonnement et un peu d'embarras. Peut-être me croyait-il toujours féru de la volage Caroline. Je le détrompai aussitôt et je lui déclarai gravement que, sans méconnaître la valeur de ses conseils et l'autorité de ses remontrances, j'avais résolu d'épouser ma petite amie. Son front se rembrunit une seconde pour s'éclairer aussitôt. « Bah ! Dit-il, ce n'est pas votre dernier mot, j'en mettrai ma main au feu. » Et vous vous brûleriez en pure perte. Je sais que Barbe n'est pas ce qu'on appelle un bon parti, vous me l'avez prouvé dans le temps. Son père, s'il n'est pas précisément le dépensier, le joueur, le bohème que vous avez cru voir en lui, a fait un placement de ses économies qui ne lui permettra jamais de doter ses enfants. Mais que suis-je moi-même ? Un capitaliste pour rire et un employé de fabrique révocable à merci. » Il reprit solennellement. « Voilà, mon ami, ce qui vous trompe. Et puisque vous m'avez amené sur ce chapitre, oublions, je vous prie, les amourettes, et parlons de nos affaires. Attendez. » En deux pas de ses longues jambes, il atteignit une armoire à porte de fer qui s'enchâssait dans la muraille. Il l'ouvrit et la referma soigneusement et revint avec un cahier de 15 à 20 pages in folio. « Ceci, mon cher, est l'acte de société de messieurs Simoneau et Dumont, propriétaires en commun des terrains, des bâtiments, des machines, des modèles, de l'outillage, des marchandises, du fond de roulement et, en un mot, de la faïencerie de Courcy, telle qu'elle est et se comporte aujourd'hui, le tout évalué à 2 millions. Vous avez intégralement soldé votre moitié du capital social, tant en argent qu'en services de toutes sortes. La transformation de l'usine est votre œuvre, c'est vous qui l'avez arraché à la routine et à la gêne pour en faire un des établissements les plus beaux et les plus florissants du pays. Mais, monsieur, je n'y ai pas mis 100 000 francs en tout. Et qu'importe, c'est grâce à vous que nous occupons 400 ouvriers. C'est par vous que le bénéfice net s'est élevé de 25 000 francs par an à 250 000. Il est donc juste que nous partagions en frères le capital et le revenu. Je rêve assurément. Quoi, monsieur, la fabrique à nous deux, sans commandite? Pas plus de commandite que sur la main. Je suis seul maître ici. La maison est à moi. Je sais ce que je vous dois, et je m'acquitte. Dites plutôt que vous m'écrasez sous un présent royal. Si mon office n'est ni un roi ni un prodigue, c'est un homme d'affaires, voilà tout. Mais dans aucun pays du monde on n'a traité les affaires ainsi. Je comprends que vous ayez l'idée de m'attacher à la maison, puisque, sans fausse modestie, j'ai rendu et je puis rendre encore des services. Mes appointements, même grossis de l'intérêt que vous m'avez accordé, sont modestes. Je pourrais trouver mieux ailleurs, je le sais. Je ne l'ai jamais dit. Mais enfin, il y a 100 façons de me récompenser et de m'attacher sans m'offrir de but en blanc la moitié de votre fortune. Admettons que vous soyez là du métier, qu'il vous tarde d'aller à Villevieille voir grandir vos petits-enfants. Vous pouvez m'établir ici comme gérant, fondé de pouvoir, que sais-je? Je vais plus loin. Je suppose que vous voulez céder le fonds. Les acquéreurs ne manqueraient pas, on mettrait l'affaire en action. Nos clients se disputeraient les parts. J'en prendrais quelques-unes, sauf à les libérer par terme, sur mes économies. Mais donner en pur don à un simple employé ce monstrueux engin de production industrielle qui s'écrit en 7 chiffres et s'appelle 1 million, vous n'y avez pas réfléchi, mon cher monsieur Simoneau. C'est un acte de pure folie. Assez causé, mon jeune ami. Je ménage le convalescent et je considère l'associé. Montez à votre chambre. Ruminez à loisir notre acte de société. Corrigez-le si vous trouvez qu'il ne fait point votre part assez large. Mais si la modestie et le désintéressement vous incitent à rogner sur vous-même, retenez bien mon dernier mot. Je suis payé. Quoi ? Payé d'1 million ? Payé ! Payé, archi-payé. C'est moi qui fais la bonne affaire. Vous voulez dire la bonne action? Les philanthropes de votre école prétendent que c'est tout un. Et par exception, mon très cher, je me trouve d'accord avec eux. Il me remorqua doucement jusqu'au premier étage et me laissa en tête à tête avec le projet d'acte dans une chambrette aussi tiède qu'un nid. Je lus et je relus la prose du notaire, et je n'y trouvai rien à reprendre, si ce n'est un contraste effroyable entre les services rendus et la récompense octroyée. Le nom de monsieur Simoneau était au bout de ce grimoire. Il ne fallait donc plus qu'une signature, la mienne, pour métamorphoser en millionnaire le fils de mes pauvres parents. Signons. Nous verrons bien si le grincement de la plume sur le papier nous éveille de ce beau rêve. » Le patron me surprit en contemplation devant son grand cahier. « Est-ce fait ?»« Oui, monsieur. Je ne comprends pas, mais je prends. Fermement résolu d'ailleurs à mériter cette fortune. » Il s'assit devant moi, tisonna un moment et demanda, sans quitter les pincettes, « Êtes-vous toujours décidé à épouser mademoiselle Bonafigue ?» Si je le suis, 1000 fois plus que jamais. Encore ce matin, j'avais quelques scrupules. Je ne savais pas si j'étais assez riche pour élever ma nombreuse famille. On ne vit plus de rien, comme au bon temps du père La France. Les besoins vont croissant, le prix des moindres choses est doublé. D'ailleurs, je puis retomber malade, mourir jeune. Et alors, que deviendrait la pauvre mignonne? Comment élèverait-elle ses enfants? Leur patrimoine était si peu de choses. Maintenant, je ne doute plus, j'ai pleine confiance. L'avenir de mon petit monde est assuré. Ah, monsieur Simoneau, vous êtes un digne homme. Il se remit à tisonner en faisant la grimace et en murmurant « Tu, 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 je suis payé !» Puis, élevant la voix tout à coup « Ah, ça, mon cher associé, vous ne vous êtes donc pas avisé d'une chose ?» J'attendais, il reprit. « Vous ne vous êtes pas avisé qu'un garçon de votre âge et de votre intelligence, lorsqu'il est outillé d'un million par-dessus le marché, a le droit de choisir sa femme entre les plus riches héritières ?» Non, cela ne m'était pas venu à l'esprit. L'article manque un peu sur la place de Courcy, mais il y a de belles fortunes à Villevieille, à Blois, à Tours, à Orléans. Et dame, un million en vaut un autre. Or, un et un font deux. 2 millions à moi, pourquoi faire? Ne fût-ce que pour acheter ma part et pour commander seul à la fabrique. Vous ne me gênez point, cher monsieur, et je crains bien de n'avoir pas la vocation du pouvoir absolu. Soit, mais on peut entrer dans une famille ancienne. Il n'y a pas plus ancien que les Dumont. Épouser une jeune personne du monde, qui joue du piano, qui porte bien la toilette. J'aime mieux Barbe, avec les robes et les chapeaux qu'elle se fait elle-même. Ou plutôt non, je ne l'aime pas mieux, car je n'en connais aucune autre. Je l'aime, tout simplement, et c'est mon dernier mot. » Comme il était homme de sens, il n'insista pas davantage et traita désormais cette petite sans le sou en futur associé. Ce n'est pourtant pas lui que je chargeais de la demande officielle. Il eût été capable de dire à ses subordonnés, les Bonafigues, qu'on leur faisait beaucoup d'honneur. Maman La France s'acquitta de l'ambassade avec cette délicatesse du cœur qui remplace avantageusement l'usage du monde. La paysanne octogénaire ne parla de mon prodigieux avancement qu'après avoir obtenu le oui, un peu grognon, mais positif, de la famille. Et lorsqu'elle eut écrasé mes beaux-parents sous le poids du capital, elle eut le bon goût d'ajouter qu'elle avait toujours rêvé leur alliance et qu'elle s'applaudissait d'avoir assez vécu pour voir cet heureux jour. Ma visite suivit la sienne à une demi-heure d'intervalle. Car si j'étais radieux, je n'étais pas encore fringant, et je ne mettais pas un pied devant l'autre sans avoir tâté le terrain. Barbe m'embrassa comme une folle. Rien de plus intrépide que l'innocence. Maman Bonafigue fut tout miel, et le vieil emballeur me prodigua les assurances de son respect. Après quoi, l'on parla d'affaires. Sans arrêter la date du mariage, qu'il fallait bien subordonner à mon rétablissement complet, on convint unanimement que je ne pouvais pas m'installer avec une femme dans le petit appartement de Mademoiselle Simoneau. Le couple provençal offrit de me céder la place et d'évacuer peu à peu le mobilier sur les Martigues, tandis que les reliques de mes pauvres parents descendraient de la ville haute, une à une, sans se presser. L'appartement était neuf et assez bien décoré. J'avais le temps de l'embellir au gré de Barbe et à ma fantaisie. Mon cousin Charles, qui devenait bientôt chef de service, garderait sa chambre au troisième, en attendant qu'on lui trouvât un logis assez vaste pour héberger ma tante et mon vieil oncle Joseph. Le patron, je veux dire mon associé, approuva nos projets par le menu, aussitôt qu'il en eut connaissance. Je ne lui cachai pas que je me proposais d'attirer peu à peu autour de moi tous les Dumont qu'on pourrait employer à la fabrique. Il répondit avec une bonhomie toute nouvelle « Faites, mon cher, n'êtes-vous pas chez vous? Je suis sûr que vous ne sacrifierez jamais nos intérêts communs au bien-être de votre famille. Du reste, on est content de Victor au magasin, et Charles a fait son chemin à travers les tonneaux d'emballage. Si vos autres cousins sont capables, comme ces deux-là, ils seront les bienvenus parmi nous. Le temps approche où je ne vaudrai plus grand-chose. Entourez-vous donc d'hommes sûrs et dévoués. » Je repris peu à peu mes occupations. Non pas à la caisse, où l'on m'avait parfaitement remplacé en mon absence, mais dans les ateliers, autour des fours et partout. Ce travail de surveillance générale fut secondé par toute la population de l'usine, artistes, employés, ouvriers, apprentis. On ne se contentait pas de témoigner à ma pauvre personne endolorie cette sympathie banale qui coûte peu. C'était à qui travaillerait de son mieux pour m'épargner la fatigue et l'ennui des remontrances. Un chef d'équipe, en tirant les oreilles d'un apprenti qui avait cassé une grosse pièce, lui disait « Animal, tu veux donc que Monsieur Dumont se fasse de la bile ?» Je surpris cette objurgation au vol et j'en fus profondément touché. Les bambins des deux sexes qui suivaient nos cours du soir m'appelaient entre eux le petit père Dumont, malgré ma taille d'1m80. Les ouvrières ne s'adressaient qu'à moi lorsqu'elles avaient besoin d'un secours ou d'une avance. L'économat, qui avait résolu en partie le problème de la vie à bon marché, était désigné sous le nom de « boutique à Dumont ». Voilà ce qui aurait flatté mon pauvre père. Le caractère de M. Simoneau était méconnaissable. Non seulement cet homme entier jusqu'à l'absurde ne semblait pas jaloux de ma popularité, mais il prenait un étrange plaisir à me pousser au premier plan, à s'effacer derrière moi, à se faire petit garçon. Vous auriez dit que le pouvoir n'avait plus de charme à ses yeux depuis qu'il était partagé. Moi, je ne pouvais pas oublier que cet homme quinteux m'avait tiré de la poussière, et je refusais obstinément d'usurper la moindre chose sur mon bienfaiteur. Peine perdue. Il est peut-être plus difficile de retenir un découragé qui aspire à descendre que d'arrêter l'ambitieux qui veut monter. Deux jours avant mon mariage, il me retint après déjeuner. J'étais toujours logée dans sa maison et nous faisions table commune. « Mon jeune ami, me dit-il, j'ai encore une affaire à vous proposer. » Je sautai sur ma chaise en riant et je lui demandai s'il allait m'offrir la deuxième moitié de la fabrique. « Tout juste, me répondit-il. Écoutez bien, plus nous allons, plus je me sens dépaysé ici. Sauf mon habitation, tout est neuf dans ces bâtiments qui m'entourent et dont les plans ne sont pas de moi. Ces machines que vous avez inventées ou importées ne me connaissent pas plus que je ne les connais. Tous les procédés de fabrication sont changés. La matière première elle-même est un composé d'éléments où j'ai du mal à retrouver la bonne vieille argile de ma jeunesse. Votre laboratoire de chimie fait dresser mes derniers cheveux sur ma tête. Quant aux produits manufacturés, il n'a rien de commun, sauf le nom, avec cette faïence que j'ai fabriquée de père en fils. En un mot, je ne suis plus de la maison que comme propriétaire d'une partie du capital. Depuis que vous avez la haute main, je ne commande pas, je commandite. La seule différence entre un commanditaire et moi, c'est qu'il est libre d'aller et de venir, de transporter son domicile où bon lui semble, de vivre avec les siens, de se lever quand il lui plaît, de ne pas écouter la cloche, de ne pas assister au défilé bruyant et poudreux des ouvriers. Eh bien, rendez-moi le service de m'affranchir. Délivrez-moi d'un métier que j'aimais autrefois, mais que j'ai pris en grippe. Je vous ai mis dans la fabrique, mettez-moi dehors. Et, foi de Simoneau, nous serons quittes. » Après m'être assuré qu'il parlait sérieusement, je répondis que je n'avais rien à lui refuser et que je ferais valoir ses capitaux avec un zèle infatigable. « Non, reprit-il. « Ce n'est pas encore ce que je veux. J'aime mieux vous vendre ma part au juste prix et réaliser mon avoir dans un délai raisonnable. En 10 ans, par exemple, engagez-vous à me payer 10 fois 125 000 francs pour le capital et les intérêts, et donnez-moi première hypothèque. Je partirai demain. » « Cher monsieur, L'affaire est trop grave pour qu'on la tranche au pied levé. Rien ne presse d'ailleurs, car nous serions désolés et mortifiés, Barbe et moi, si vous n'assistiez pas à notre mariage. Je consulterai ma nouvelle famille, je m'interrogerai moi-même, et le 1er septembre prochain, nous étions au 20 août, vous aurez une réponse. Soit, mais décidez-vous, j'ai preneur. Le même jour, il m'arriva de San Francisco une lettre signée Basset. Mon excellente amie n'en était plus à m'adresser ses condoléances sur la mort de ma mère, ni même ses compliments à propos de mon mariage. Je lui avais annoncé la bonne et la triste nouvelle au premier jour de ma convalescence, et il m'avait répondu avec tout son cœur. Comme tous ceux qui m'aimaient pour moi, il me destinait de tout temps à épouser sa chère petite bonne à figue, et il ne m'eût jamais pardonné d'en choisir une autre. « Elle mérite d'être ta femme, disait-il, rien que pour avoir enlevé, à la barbe de ses chenapans, notre arbre de la liberté. » Maintenant que le grand jour était proche, le bon Basset se désolait de n'avoir pas un présent de noces à nous offrir. Il promettait de boire un fort coup à la santé des heureux époux, mais c'était à peu près tout ce qu'il avait à notre service. Dans ce pays bouleversé, les sauvages n'avaient plus d'industrie, et les Européens n'en avaient pas encore. Le seul produit un peu intéressant était celui dont j'allais recevoir un échantillon entre deux gendarmes. Il citait à ce propos, en le modifiant un peu, le refrain d'une vieille romance. « Et si je ne suis pas là, mon baril du moins y sera. » Je ne sais pas si l'on sert encore des dragées aux noces de France. Les miennes vous paraîtront peut-être un peu dures, mes chers enfants, mais ce n'est pas une raison pour les jeter par la fenêtre. Cela se fond. Le petit tonneau mystérieux arriva le lendemain matin dans une voiture du chemin de fer, sous l'escorte d'un employé et de deux gendarmes. Il pesait environ 100 kilos. Les dragées qu'il contenait étaient des pépites d'or pures, absolument semblables à celles de M. Simoneau. Il y en avait pour 300 000 francs. Mon associé, qui semblait familier avec ce genre de monnaie, l'accepta sans difficulté comme à compte et réduisit le surplus de ses prétentions à 800 000 francs, payables en 8 ans. Moyennant quoi, le greffier de la mairie inscrivit sur le registre de l'état civil « Barbe Luce Bonafigue, sans profession, et Pierre Dumont, propriétaire de la faïencerie de Courcy. » Monsieur le comte de Taillemont, député, chambellan et maire, montra qu'il était gentilhomme en refusant de nous marier lui-même. Il délégua son deuxième adjoint, un marchand de fourrage, qu'il avait eu longtemps pour cocher. Mais les noces n'en furent pas moins brillantes. La ville et la fabrique avaient envahi la mairie et toutes les rues d'alentour. Riches et pauvres voulaient nous embrasser ou nous serrer les mains. Il n'y manquait que les fonctionnaires et les mouchards. Encore Martin Seix se montra-t-il en grand uniforme, à distance respectueuse. J'avais mis en réquisition, moyennant finance, toutes les voitures de la ville et quelques-unes des environs. Elles formaient un cortège bizarre par l'âge et la variété des modèles, dont quelques-uns dataient du Premier Empire. 56 Dumont, des deux sexes, s'y empilaient en bien que mal, en redingote, en habit noir, en veste, en blouse, les femmes en robe de soie, de lainage ou de cotonnade, selon la condition de chacun. Maman, la France était la plus belle de toutes, et la plus triomphante aussi, dans son costume de 1796. L'oncle Louis, le riche cordier, était là, avec sa femme, ses enfants, et ses petits-enfants. La tante Rosalie avait amené son mari, le Charron de Grancé, et une nombreuse postérité. Item, l'oncle Joseph et tous ceux de Launay. L'oncle Bernard, cordonnier à Courcy, sa femme et leurs 5 filles, dont 2 mariées. L'oncle cadet, le Canu de Lyon, veuf avec 3 enfants. Je leur avais payé le voyage. Ma vieille Catherine, ai-je besoin de l'indiquer, faisait corps avec la famille. Les Bonafigues étaient quatre en tout, comme le jour de l'incendie. Jean avait obtenu, non sans peine, une permission de 15 jours pour assister au mariage de sa sœur. C'était un charmant garçon, pas trop grand, mais bien fait, cambré, svelte et nerveux, à l'œil brillant, à la moustache noire. Un amour d'officier français. Mais, hélas, l'épaulette à gauche, et pour longtemps. Mauvaise note politique. Mes témoins étaient M. Simoneau et le docteur Casal. Ceux de barbe, M. Vineau et le greffier, vieil ami de nos deux familles. Après avoir signé l'acte solennel et irrévocable, qui de devis n'en fait plus qu'une, je montai seul avec ma femme dans la voiture de M. Simoneau. Et, suivi d'une centaine d'invités, nous reprîmes le chemin de la fabrique. Un festin pantagruélique, comme on n'en sert plus qu'en province, nous attendait dans une vaste salle du rez-de-chaussée, tendue de toiles écrues et décorée de feuillages et de drapeaux. Les fillettes de notre école professionnelle offrirent un bouquet à leur nouvelle patronne en chantant une cantate absurde et empoulée qui nous fit tous pleurer comme des veaux. Je m'apprêtais à recevoir de nos garçons une semblable bordée, mais ils m'en firent grâce, les vauriens. C'est sur la table même du banquet qu'on avait préparé ma surprise. Je demeurai saisi en découvrant un magnifique service, entièrement inédit, le plus beau qui fût jamais sorti des fabriques de France et d'Angleterre. Il était décoré de toute une collection d'orchidées et d'oiseaux exotiques, et sur chaque pièce, on avait remplacé le chiffre du destinataire par un médaillon où le profil de barbe et le mien s'appliquaient l'un sur l'autre, comme dans les camées antiques. Devant ma place, en guise de menu, se dressait sur 3 pieds une pancarte de faïence qui simulait un papier de Hollande, un peu roulé au coin et imperceptiblement fripé. Une main très savante y avait peint en lettres gothiques de 7 couleurs l'adresse que voici. Monsieur Pierre Dumont. Les artistes, les employés, les ouvriers et ouvrières, les apprentis et apprentis de la fabrique se sont unis et cotisés pour vous offrir ce témoignage de respect, de reconnaissance et d'amitié. Ils vous souhaitent de tout cœur, ainsi qu'à Madame Dumont, des jours heureux et une nombreuse famille. Puissiez-vous être continué par vos enfants comme vous continuez votre regretté père, mort ici dans un acte de courage et d'humanité. Barbe, qui avait lu avec moi, devina que j'éprouvais le besoin de répondre à ces bonnes paroles. Nous étions tous debout autour de la table. Je distinguais vaguement les chefs de service et les artistes de l'usine à leur place et un groupe d'ouvriers des deux sexes empilés avec leurs enfants aux deux portes de la salle. Et je me dandinais assez niaisement, comme font tous les orateurs inexpérimentés. La petite femme me tirait par un pan de mon habit. Elle se haussait sur la pointe des pieds pour murmurer à mon oreille « Ne dis rien ! Ne dis rien !» Mais trop tard, j'étais déjà parti. Mes amis, mes bons chers amis, c'est une trahison. Vous m'avez pris au dépourvu. Je suis profondément touché, et cependant la parole me manque pour vous remercier d'une manifestation si magnifique et si sympathique. Mais nous sommes gens de revue, et certainement, un jour ou l'autre, vous me paierez ça. On applaudit sans trop comprendre, et l'on s'assit. « Là !» me dit la petite méchante. « Je t'avais prévenu, tu as pataugé. Voilà ce que c'est que de désobéir à sa femme. Laisse-toi donc aller, grand bête. Fais comme moi, pleure. 2 gouttes d'eau salée sur les joues sont 1000 fois plus éloquentes qu'un discours. » Sur ce, le potage apparut. Et comme les convives étaient des gens de bel appétit, on mangea et l'on but jusqu'à 5 heures de relevé. Mes beaux-parents avaient pris leurs mesures pour nous quitter sans cri et sans déchirement par le train de 6h15. tandis que Barbe mettait un déshabillé de ville pour les conduire à la gare, je tirai M. Bonafic dans un coin et je lui dis « Cher monsieur, nous n'avons pas encore tout réglé. »«
T'es mon bon, que veux-tu encore? Faudra-t-il que je t'offre meilleur, plus neuf et plus beau que ce que je t'ai donné? Je t'avertis qu'il n'y a pas mèche. »
« Je ne réclame rien, au contraire, je vous redois. »«
Oh, ça, me prendrais-tu pour un oncle de Lyon? Monsieur se flatte apparemment de nous payer notre voyage. » ?»«
Non, changeons de ton, s'il vous plaît. Ce n'est pas le gendre qui parle, c'est le patron. »«
Oh, alors, mon respect. » !»«
Comme gendre, monsieur, je trouverais malséant de vous offrir mes petits services, dont vous n'avez nul besoin, on le sait. »
À la bonne heure. Si tu voyais le paradis que je me suis arrangé là-bas, si tu connaissais les Martigues, plus beau que Marseille, mon cher. Moins bâti, mais 100 fois plus beau. Et la pêche, et la chasse, des 12 hirondelles par jour, sans compter les moineaux et semblables gibiers à plumes. C'est simplement l'abondance qui m'ouvre ses bras.
J'en suis fort aise, et d'ailleurs, comme vous ne m'avez pas vendu, mais donnez, votre charmante fille, je ne me reconnais pas le droit de vous enrichir.
Tu es un bon garçon. C'est en Alger que les maris paient des dots à leur beau-père.
Mais c'est le patron qui vous parle, tête de bois.
J'allais l'oublier, mon respect.
La fabrique, monsieur, sans prétendre rivaliser avec les administrations publiques, a le droit et le devoir de servir des pensions de retraite aux bons employés qui lui ont consacré une partie de leur existence.
Le devoir? Je ne sais pas trop, car enfin, il n'y a jamais eu de retenue proportionnelle, mais le droit peut se soutenir.
Je m'y renferme. Eh bien, monsieur le chef du service des emballages, avez-vous consacré tout votre temps, toutes vos forces, toutes vos capacités au bien de ma maison?
Celui qui soutiendrait le contraire.
Parfait. Je ne vous demande pas si vous vous êtes contenté de vos modestes appointements sans chercher des profits illicites.
Tronc de l'air.
Ne nous fâchons pas. Alors, force vous est de reconnaître que comme Monsieur Courtois, comme Monsieur Vineau et comme plusieurs autres employés de notre maison, vous avez mérité de toucher jusqu'à la fin de vos jours les 3/4 de votre traitement d'activité.
1000 écus! À moi? 1000 écus de rente viagère? Vous plaisantez, je crois.
Le patron de la fabrique de Courcy ne plaisante jamais.
L'autre? Non, ça, c'est vrai. Mais vous? Mais toi, Sangodémi, si je m'étais attendu à celle-là... C'est qu'avec 1000 écus de rente, on est richissime au Martigues. J'armerai des navires, je ferai la traite des anchois, je t'enverrai de la boutargue, tu boiras de mon vin, noir comme taupe et épais à couper au couteau.
Tu recevras en plein hiver des melons 15 fois plus gros qu'une calebasse, bagasse. Allons trouver ma femme et lui conter la grande nouvelle. Elle partage mes principes. Du gendre, pas un sou. Du patron, tout ce qu'il voudra dans sa générosité magnanime. » Cet incident répandit un peu de gaieté sur la séparation. Barbe se consola du départ de ses parents en pensant qu'ils seraient heureux dans leur paradis de poussière et qu'ils n'y manqueraient de rien, grâce à nous. Je terminais, pendant que j'étais en train, tous mes arrangements de famille. L'oncle Auguste, ou cadet, reçut à titre de prêt la somme assez modeste dont il avait toujours eu besoin pour acquérir 2 ou 3 métiers et s'établir fabricant à son compte. Victor, le fils aîné de ma tante Rosalie, était déjà chez moi. Je pris encore un de ses frères, et ces 2 bons garçons promirent d'acheter sur leurs économies la maison de Grand C que leur père tenait à loyer. En attendant, je fis l'avance. L'oncle Joseph, avant de prendre ses quartiers de vieillesse à la fabrique, voulait établir sa fille aînée. On avait le mari sous la main, mais la dot manquait. J'insinuai à Charles qu'il lui appartenait de doter sa sœur et que c'était le devoir d'un bon frère. Il accepta de bonne grâce une retenue de 50 francs par mois pendant 3 ans
et je versai 2000 francs pour faire la somme ronde. Il ne me restait plus qu'à retenir maman la France auprès de nous, mais j'y perdis mon latin. Ses habitudes étaient prises, elle voulait obstinément mourir dans son village. On eut beau lui prouver qu'elle s'y ennuierait toute seule après le départ de Joseph, elle ne se décida jamais à quitter la maison tapissée de lierre où elle avait élevé ses enfants et fermé les yeux de son mari. Tout ce que je gagnais sur cet entêtement respectable, ce fut la permission de meubler un peu le logis, de le ravitailler à ma guise et d'y mettre une servante choisie, la propre nièce de Catherine, qui conduisit tout doucement ma chère vieille jusqu'à l'âge de 96 ans. Lorsque tout fut réglé au contentement de chacun, la famille prit congé de nous. Il était 10 heures du soir, l'heure tranquille, honnête et sage, où la province se met au lit. Barbe, en entrant dans notre chambre, qui avait été celle de ses parents, devint très sérieuse. Elle se mit à penser tout haut. « Tu ne les connais pas ?» me dit-elle. « Ces deux pauvres oiseaux déplumés qui se sont envolés ce soir pour nous laisser leur nid tout chaud. Un gendre ne voit que les travers de ses beaux-parents. Ils sont bons comme le pain. Ils m'ont choyé, ils m'ont gâté. Je t'apprendrai à les apprécier et à les aimer comme j'aimais ta chère maman. C'est elle qui serait heureuse si elle pouvait voir tout le bien que tu fais autour de nous. Tu as hérité de ton père, aujourd'hui. Tu as repris la suite de ses affaires. Je ne suis pas superstitieuse, mais il me semble que cette pluie de bénédictions sur nos deux têtes nous portera bonheur. Cependant, je ne me sens pas aussi gaie que je devrais l'être. Pourquoi ? Peut-être tout simplement parce que le mariage est chose grave et que la fondation d'une famille est l'acte le plus solennel de la vie. Nous allons dormir côte à côte dans ce grand lit que tu as commandé exprès pour nous. Je n'ai pas peur de toi, bien au contraire. J'aime à penser que nous serons ainsi toujours l'un avec l'autre, jusqu'au jour de l'inévitable séparation. Pourtant, il faudra, tôt ou tard, qu'un de nous deux y reste seul. Pierre, mon bien-aimé, promets-moi que je mourrai la première.
Égoïste,
regarde-toi donc au miroir, et dis-moi si cet être jeune, brillant et fougueux n'a pas 100 ans à vivre. » Les fêtes de notre mariage se prolongèrent, en s'éteignant, jusqu'à la fin de la semaine. Jean, mon beau-frère, partit le dernier, après tous les Dumont de la terre. Il avait si souvent partagé ses billes et ses confitures avec moi que je ne craignis point d'offrir, ni lui d'accepter, un léger supplément de solde. L'État, je ne sais trop pourquoi, condamne les officiers français à s'endetter un peu tous les ans jusqu'au grade de capitaine. Il suffirait d'ajouter une bagatelle à leur nécessaire, trop exactement calculé, pour leur donner le repos et l'indépendance. La pension que je servis à Jean se bornait à un chiffre minime, pour ne pas dire dérisoire. Elle fit cependant de ce charmant garçon un officier tranquille, aisé, libre de soucis, tout à son devoir, ce qu'on appelle au régiment un jeune homme bien de chez lui. Pendant tout le mois de septembre, M. Simoneau fit ses paquets. Cet homme inexplicable, qui m'avait jeté à la tête une moitié de sa fortune et qui m'avait vendu l'autre moitié en chipotant comme à la halle, voulait absolument me céder ses vieux meubles, ses vieux rideaux, ses vieux tapis, sa vieille batterie de cuisine, ses vieux chevaux et sa vieille voiture, le tout à des prix d'affection, c'est-à-dire au double de la valeur réelle. Je fus tenté un moment de me faire écorcher par simple nonchalance pour entrer dans une maison toute meublée et ne pas recommencer mon installation. Mais, après quelques jours de réflexion, je m'en tins au précepte de Musset, ce fou plein de cœur. Que tout vous soit nouveau quand la femme est nouvelle. Et je me donnai à moi-même 1 an pour construire et capitonner le vrai nid. La maison était grande et solidement bâtie, mais sans aucun caractère et assez mal distribuée. J'en refis des façades à grand renfort de majolique polychrome. Partant de ce principe que l'enseigne d'un faïencier doit être la faïence, je me logeai derrière une collection de carreaux riches, brillants et variés comme une carte d'échantillon. On nous en mit par-dessus la tête, c'est-à-dire que la poterie vernissée remplaça agréablement la tuile rouge. Le rez-de-chaussée fut consacré à l'administration, le premier étage à la réception et le deuxième à l'habitation proprement dite. Le cabinet de M. Simoneau fut lambrissé de vieux chênes, égayé par quelques vitraux et flanqué d'un jardin d'hiver où j'entrais de plein pied lorsqu'il me prenait fantaisie de dégourdir mes muscles sans sortir au grand air. Je plaçai les archives de la maison dans une salle voisine qui devait servir de bureau à mon secrétaire particulier. Il y avait ensuite une bibliothèque de prêt pour instruire et pour amuser le personnel de la fabrique, et l'aile droite s'arrêtait là. En traversant le vestibule, on trouvait deux vastes galeries adossées l'une à l'autre. La première renfermait la série complète de nos produits et la collection de tous nos cuivres gravés pour l'impression de la faïence. La seconde était destinée à un petit musée où je me promettais de loger des spécimens de l'art céramique empruntés à tous les temps et à tous les pays. La distribution du premier étage fut une erreur assez coûteuse, mais qui nous occupa fort agréablement, ma femme et moi. Après la cuisine, l'office, la lingerie et une grande salle à manger, décorée de 4 panneaux symboliques, la moisson, la vendange, la chasse et la pêche, j'eus la malencontreuse idée de construire, d'orner et de meubler 3 salons et un boudoir. Ces 3 coquins de salon étaient de taille à contenir 800 personnes, c'est-à-dire 8 fois plus de bourgeois des deux sexes qu'une battue en règle n'en eût ramassé dans Courcy. Quant au boudoir, une merveille de luxe et de confort. Barbe n'y entra pas 15 fois en 15 ans. Nos chambres à coucher, en revanche, étaient aussi commodes qu'élégantes. Je m'étais inspiré des Anglais, ces grands maîtres dans l'art du confort. Monsieur et madame occupaient une vaste pièce au milieu de la maison, sur le devant, avec 3 fenêtres de façade. Un lit aussi large que long, 2,30 mètres dans tous les sens, était debout, la tête au mur, entre 2 consoles de marbre blanc, pour la lampe et le livre du soir. Un mobilier très simple et très solide en chêne laqué, blanc et bleu. 2 grandes glaces appliquées au mur pour la toilette de madame. Dans la cheminée, un grand feu de gaz enfermé par une grille de fer forgé. Une pendule et 2 flambeaux de vieux Saxe, un petit lustre de verre de Venise, la tenture et les rideaux de perse clair, renouvelés et lavés tous les 3 mois. Un tapis gris piqueté de rouge qui couvrait tout l'appartement, sauf le cabinet de toilette, qui était revêtu de nattes de chine du haut en bas. Ce luxe, infiniment plus simple, mais aussi plus hygiénique que le capitonnage à la mode, était du goût de ma femme et du mien. Et, comme nul que nous et Catherine ne montaient l'escalier du second étage, nous n'avions pas à tenir compte de l'opinion d'autrui. Je soupçonne pourtant que notre cabinet de toilette aurait pu faire des jaloux avec ses marbres purs, ses faïences gaies, les torrents d'eau chaude ou d'eau froide qu'on y faisait venir à volonté, rien qu'en touchant un bouton de cristal, et sa grande baignoire de bronze où je me lavais en athlète de pied en cap, suivant le précepte et l'exemple de mon bon père, le charpentier. La nurserie, construite pour loger un peuple de jeunes Dumont, nous bornait à droite et à gauche. Barbe avait fait passer de terribles quarts d'heure à l'architecte. « Il faut, vous m'entendez, que j'aie la main sur mes petites filles. Cependant, vous n'allez pas reléguer mes grandes filles à 1 kilomètre de leur mère. Et mes garçons, monsieur, je compte les nourrir aussi, sans toutefois les garder dans ma chambre. Le repos du père est sacré. » « Arrangez-vous de telle façon que la nourrice sèche puisse me les apporter sans éveiller personne lorsqu'ils auront besoin de moi. »
L'architecte fit de son mieux, et son mieux n'était pas trop mal, en vérité, pour la province. Mais on ne peut pas tout prévoir. Savait-il, le pauvre homme, en décorant le boudoir de ma femme, qu'elle ne me quitterait jamais d'une semelle, vivrait, pour ainsi dire, dans ma poche, apporterait sa chaise basse et ses petits ouvrages d'aiguille dans le cabinet du patron, dépouillerait la correspondance, répondrait aux clients, et économiserait à la maison du Mont la dépense d'un secrétaire. Pouvait-il deviner surtout que ces jolies chambres d'enfants, achevées avec tant de soin, surveillées avec tant d'amour au moment de l'exposition universelle de 1855, seraient encore inhabitées en janvier 1800? Tout allait pourtant à merveille dans la fabrique et dans la maison. Nous avions obtenu la grande médaille d'or à Paris pour le service d'orchidées et d'oiseaux, sans le camé du milieu, bien entendu. La demande nous débordait. Notre faïence était vendue avant d'être cuite. Les étrangers la disputaient aux nationaux. Mon personnel, toujours croissant, arrivait à 580. Mes bénéfices m'avaient permis de solder M. Simoneau avant le terme convenu. J'étais non seulement maître chez moi, mais propriétaire sans hypothèque. Et pas d'enfant. Pas même, en près de 6 années, une vague et fugitive espérance. Et Barbe avait si bonne mine, elle était si jolie, si gaie. Elle faisait ses 3 repas d'un si brillant appétit. Nous nous aimions tant. Je la vois, assise à ma droite, dans la Victoria neuve que je lui avais fait venir d'Orléans. En entrant dans la grande avenue qui coupe en deux le bois du Lézard, elle me dit « Tu crois peut-être que je ne pense à rien parce que je ne bavarde pas. Eh bien, tu te trompes, grand bête. Je me disais justement « Il est bon et il m'aime, ce mari que j'ai là. C'est lui qui m'a donné la voiture et les chevaux baies cerises et le cocher en livrée vert bouteille. Sans lui, je n'aurais rien de tout cela. » Je ne suis pas née pour faire la dame. Mais il me gâte, il m'aime, il est bon. Je ne mérite pas d'être à lui. » Au cours des 2 premières années, nous parlions à toute minute des enfants que nous aurions. Puis l'habitude nous en passa. Barbe ne m'arrêta plus dans nos promenades pour me faire admirer un morveux barbouillé de résinée qu'elle embrassait. Ce fut ensuite à qui de nous deux dirait le plus de mal de cette abominable marmaille qui casse tout dans la maison, s'oppose au travail sérieux, trouble l'intimité des parents. Nous nous trouvions très bien ainsi. On ne pouvait pas être mieux. L'invasion d'un intrus gâterait la parfaite ordonnance de notre vie. N'importe. Il y avait des jours où la maison nous semblait bien déserte, et d'autant plus déserte qu'à nous deux, nous ne faisions qu'un. J'aurais donné de bon cœur la moitié de ce que je possédais pour voir rouler une poupée sans bras dans l'escalier ou rencontrer un cheval de carton sur 3 pattes à la porte de mon cabinet.